Nous nous mîmes à marcher plus vite, et en quelques minutes nous arrivions au bord de la dépression que nous avions remarquée. Holmes me demanda de longer la pente de droite, tandis que lui-même inspecterait celle de gauche. Je n'avais pas fait 150 pas que je l'entendis pousser une exclamation et que je le vis me faire signe avec la main. À l'endroit où il se trouvait, le sol était mou, et l'on distinguait très nettement les pas d'un cheval. Holmes prit dans sa poche le fer de Silver Blaze, et nous pûmes constater qu'il correspondait parfaitement aux empreintes que nous avions devant nous. « Voyons un peu à quoi sert l'imagination, » dit Holmes. « C'est la seule qualité qui manque à Gregory, mais nous, nous sommes partis d'une simple hypothèse pour imaginer ce qui avait pu arriver, et nous trouvons nos conjectures pleinement justifiées. Continuons. » Nous traversâmes un fond marécageux et ensuite, pendant 500 mètres environ, nous cheminâmes sur un terrain sec et durci. Là, nouvelle dépression de terrain, et de nouveau aussi, nous rencontrâmes les traces du cheval. Puis elles disparurent pendant 700 ou 800 mètres, mais pour apparaître encore une fois tout près de Capleton. Ce fut Holmes qui les retrouva le premier, et il s'arrêta en me les montrant avec un regard de triomphe. À côté des pas du cheval, ceux d'un homme étaient parfaitement visibles. « Mais le cheval était seul jusqu'ici, » m'écriai-je. « Précisément. Dans le principe, il était seul. Eh, mais qu'est-ce que je vois là ?» La double piste tournait brusquement, faisant un angle aigu, et semblait reprendre le chemin de King's Byland. Nous nous mîmes à la suivre. Holmes ne la quittait pas des yeux et sifflotait entre ses dents. Mais il m'arriva par hasard de regarder un peu du côté et, à ma grande surprise, j'aperçus les mêmes empreintes qui revenaient dans la direction opposée. « Un bon point, Watson, » dit Holmes, lorsque je les lui montrais. « Vous nous avez épargné une longue promenade qui nous eut ramenés sur nos pas. Reprenons la voie dans ce sens. » Nous n'eûmes pas à aller bien loin. Les traces s'arrêtaient à la bordure d'asphalte qui s'étendait devant la grille des écuries de Capleton. Comme nous nous en approchions, un groom se précipita au-devant de nous. « Nous ne voulons pas de curieux par ici » cria-t-il. « Un mot seulement, » répondit Holmes en plongeant ses doigts dans la poche de son gilet. « Si je venais ici demain à 5 heures du matin, « serait-ce de trop bonne heure pour parler à votre maître, Monsieur Silas Brown ?»« Oh, grand Dieu, non, monsieur. Si quelqu'un est debout à cette heure-là, c'est bien lui, car il est toujours le premier levé. Mais le voici, il pourra vous répondre lui-même. Non, monsieur, non, non, merci. Si on me voyait accepter votre argent, je ne ferais pas long feu ici, plus tard, si vous voulez bien. » Comme Sherlock Holmes remettait dans son gousset la pièce d'or qu'il en avait tirée, un homme d'un certain âge, à l'aspect brutal, franchit la grille en balançant son fouet de chasse d'un air menaçant. « Qu'est-ce que c'est ?» Dormson s'écria-t-il. « Pas de bavardage et au travail. Quant à vous autres, qu'est-ce que le diable vous amène faire ici ?»« Causer 10 minutes avec vous, mon cher monsieur, » répondit Holmes de sa voix la plus douce. « J'ai pas le temps de parler ainsi au premier venu. » « Nous ne voulons pas d'étrangers chez nous. Allez, filez, je vous lâche mon chien dans les jambes. » Holmes se pencha à l'oreille de l'entraîneur et lui murmura quelques mots. L'homme tressaillit fortement et devint rouge jusqu'aux oreilles. « C'est un mensonge » s'écria-t-il, « un infâme mensonge. Comme vous voudrez. Désirez-vous donc que nous éclaircissions la chose en public ?» Ou bien préférez-vous que nous en parlions tranquillement dans votre bureau ? Oh, après tout, entrez si vous voulez. Holmes sourit. Je ne vous ferai pas attendre plus de quelques minutes, Watson, me dit-il. Maintenant, Monsieur Brown, me voici tout à vous. Les teintes rougeâtres du ciel s'étaient déjà changées en un gris sombre, et 20 bonnes minutes s'étaient écoulées avant qu'Holmes et l'entraîneur reparussent. Jamais je n'ai vu en si peu de temps un changement semblable à celui qui s'était produit chez Silas Brown. Il était pâle comme la mort. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front, et ses mains tremblaient tellement que son fouet de chasse s'était aussi agité qu'une branche secouée par le vent. Son attitude insolente et brutale avait disparu pour faire place à celle d'un chien battu qui suit son maître. « Vos ordres seront exécutés, monsieur, ce sera fait, je vous le promets, » disait-il. « Pas de malentendu, n'est-ce pas ?» reprit Holmes en jetant un regard autour de lui. L'autre tressaillit en lisant une menace dans les yeux de mon ami. « Oh, certainement non, il n'y aura pas de malentendu. Il sera là. Faudra-t-il que je le nettoie avant ?» Holmes réfléchit un instant et puis se mit à rire. « Non, non, n'y changez rien, » dit-il. « D'ailleurs, je vous écrirai à ce sujet, mais ne cherchez pas à me jouer un vilain tour ou sans cela. Oh, oh, soyez tranquille, monsieur, soyez bien tranquille. Vous aurez à le surveiller tout le temps, comme s'il vous appartenait. Allez, vous pouvez compter sur moi. J'y compte, en effet. Eh bien, vous aurez de mes nouvelles demain. » Là-dessus, il pivota sur ses talons, sans faire semblant de voir la main tremblante que l'autre lui tendait, et nous reprîmes le chemin de King's Pyland. J'ai rarement rencontré un assemblage plus complet d'arrogance, de lâcheté et de bassesse que chez Maître Silas Brown, remarqua Holmes. Et le cheval alors ? Oh, il a commencé par vouloir le prendre de très haut avec moi. Je lui ai détaillé d'une façon si complète tout ce qu'il avait fait ce matin qu'il a été convaincu que je l'avais épié. Vous avez naturellement remarqué que les empreintes relevées par nous étaient celles de chaussures à bout très carré, exactement semblables aux bottines qu'il porte. D'ailleurs, aucun sous-ordre n'aurait eu le toupet de faire un coup pareil. Je lui ai raconté comment, s'étant levé le premier, selon son habitude, il avait aperçu un cheval errant dans la lande, comment il s'était dirigé vers lui et quel avait été son étonnement en reconnaissant à l'étoile blanche qu'il a au front et d'où lui est venu son nom, le célèbre Silver Blaze. Le hasard lui livrait ainsi le seul cheval capable de battre celui qui portait son argent. Alors, son premier mouvement a bien été de ramener le crack à King's Pyland, mais le diable s'en mêlant, il a réfléchi qu'il lui était facile de cacher le cheval jusqu'à ce que la course ait été courue et, au lieu de le rendre, il l'a gardé à Capleton. Lorsque je lui eus donné tous ces détails, il s'est bien cru forcé d'avouer et n'a plus songé qu'à s'en tirer au meilleur compte possible. Mais ses écuries avaient été visitées. Oh, un vieux maquignon comme lui a plus d'un tour dans son sac. Ne craignez-vous donc rien en laissant encore le cheval chez lui, puisqu'il a tout intérêt à lui faire arriver un accident. Mon cher ami le surveillera comme la prunelle de ses propres yeux. Il sait trop bien que la seule chance qui reste pour qu'on lui pardonne est d'amener le cheval en parfait état. Le colonel Ross ne m'a pas fait l'effet d'un homme à pardonner facilement en aucun cas. Cela ne regarde pas le colonel Ross. J'agis à ma guise et ne raconterai que ce que je veux. Voilà l'avantage de n'être pas un agent officiel. Je le sais, Watson, si vous avez remarqué que le colonel m'avait traité d'une façon plutôt cavalière. Aussi j'ai bien envie maintenant de m'égayer un peu à ses dépens. Ne lui dites donc rien au sujet du cheval.
Parfaitement, je ne parlerai pas sans votre consentement.
Mais tout cela est évidemment bien peu de choses, à côté du meurtre de John Striker et de la découverte de son assassin.
Et c'est maintenant à quoi vous allez vous consacrer.
Au contraire, nous allons reprendre tous deux ce soir le même train pour Londres.
Ah, ces mots, je restais confondu. Comment, nous n'avions passé que quelques heures dans la Devonshire, nos recherches avaient débuté de la façon la plus brillante et nous allions maintenant tout planter là? C'était pour moi incompréhensible.
Il me fut impossible d'arracher une parole de plus à mon compagnon jusqu'à notre retour à la maison de l'entraîneur.
Le colonel et l'inspecteur nous attendaient dans le salon.
Mon ami et moi, nous rentrons à Londres par le train de minuit, dit Holmes. Nous venons de faire une charmante petite promenade et cet air pur de Dartmouth est vraiment délicieux à respirer.
L'inspecteur ouvrit de grands yeux et le colonel esquissa un sourire ironique.
Ainsi donc vous désespérez d'arrêter l'assassin du pauvre Straker, demanda-t-il.
Holmes haussa les épaules.
Nous nous heurtons certainement à des difficultés sérieuses, dit-il. J'ai cependant bon espoir de voir votre cheval partir mardi, et je vous demande de tenir votre jockey tout près. Puis-je avoir une photographie de John Straker ?
L'inspecteur prit une enveloppe dans sa poche et la tendit à Holmes.
Mon cher Gregory, vous prévenez tous mes désirs. Voulez-vous être assez aimable pour m'attendre un instant? J'aurai une question à poser à la servante.
Je dois avouer que votre amateur de Londres ne répond guère à mon attente, dit le colonel Ross d'un air de mauvaise humeur dès qu'Holmes fut sorti. Je ne vois pas que nous soyons beaucoup plus avancés qu'avant.
Dans tous les cas, fis-je, vous avez l'assurance que votre cheval partira.
Oui, j'ai son assurance, repartit le colonel en haussant les épaules. Je préférerais avoir le cheval.
J'allais prendre la défense de mon ami lorsque celui-ci rentra.
Eh bien, messieurs, dit-il, me voilà prêt à partir pour Tavistock.
Un des garçons d'écurie tenait la portière de la voiture ouverte. Au moment d'y monter, Holmes sembla frappé d'une idée subite et prenant le lad par le bras.
Vous avez là dans le paddock quelques moutons, lui dit-il. Qui est-ce qui en prend soin ?
C'est moi, monsieur.
N'avez-vous pas remarqué parmi eux quelque chose d'extraordinaire ces jours-ci ?
Bon, mon Dieu, monsieur, pas grand-chose.
Oh, si ce n'est qu'il y en a trois qui sont tombés boiteux.
Je vis que Sherlock Holmes était parfaitement satisfait de cette réponse, car il se mit à rire en dedans et en se frottant les mains.
« Bien visé, Watson, en plein dans le noir, » dit-il en me passant le bras. « Gregory, permettez-moi d'appeler votre attention sur cette épidémie bizarre sur les moutons. Allez, cocher. »
Le colonel témoignait clairement par l'expression de son visage de la pauvre opinion que les talents de mon compagnon continuaient à lui produire. Mais je vis à la figure de l'inspecteur que cette dernière observation l'avait sérieusement intrigué. « Vous considérez cela comme une chose importante ?» demanda-t-il.
« Très importante. »
« Y a-t-il quelque autre point sur lequel vous désireriez attirer mon attention ?»«
Sur la manière étrange dont le chien s'est comporté la nuit du meurtre. »«
Mais le chien n'a rien fait. »«
C'est précisément là ce qui est étrange, » répondit Holmes. »
Quatre jours plus tard, Sherlock Holmes et moi, nous prenions encore le train pour aller cette fois à Winchester assister à la grande course du Wessex Cup. Le colonel Ross nous attendait devant la gare, ainsi que cela avait été convenu, et il nous fit monter dans sa voiture pour nous mener au champ de course situé en dehors de la ville. Sa figure était sérieuse et ses manières plus que froides. «
Je n'ai pas aperçu trace de mon cheval, » dit-il.
« Je pense que vous l'auriez reconnu si vous l'aviez vu, » demanda Holmes.
Le colonel s'emporta.
« Voilà 20 ans que je m'occupe de course, et c'est la première fois qu'on ose m'adresser une pareille question. Un enfant reconnaîtrait Silver Blaze à l'étoile blanche qu'il porte au front et à sa balzane à l'intérieur.
« Comment est la côte ?»«
Eh bien, c'est ce qui est étrange. » Vous auriez pu avoir mon cheval hier à 15-1, mais la cote baisse de plus en plus. Maintenant, c'est à peine si on le donne à 3.
murmura Holmes. Il y a quelqu'un qui sait à quoi s'en tenir, c'est clair.
Au moment où la voiture entrait dans l'enceinte et se rangeait en face des tribunes, je jetai un coup d'œil sur le programme. Le voici. Wessex Plate, poule de 1 250 francs, moitié forfait, ajouté un prix de 25 000 francs pour chevaux de 4 et 5 ans. 7 500 francs au second, 5 000 francs au troisième, nouvelle piste, 2 400 mètres. Trois colonnes avec les noms et les numéros des propriétaires, les noms des chevaux et les couleurs. Monsieur Newton F., The Negro, Kazakh giroflé toque rouge. Numéro 2, Colonel Wardloff, pugiliste, Kazakh bleu et blanche toque rose. Numéro 3, Lord Blackwater, Desborough, Kazakh blanche, manche et toque jaune. Numéro 4, Colonel Ross, Silver Blaze, Kazakh rouge, toque noir. Numéro 5, Duke Backmoral, Iris, Kazakh rayé, jaune et noir, toque idem. Et 6e, Lord Singlefort, Rasper, Kazakh blanche, manche noire, toque amarante.
J'ai retiré mon second cheval, me fiant entièrement à votre promesse, dit le colonel.
Et qu'est-ce que je vois ? Silver Blaze favori.
4 contre 5, Silver Blaze, hurlait-on dans le ring. 4 contre 5, Silver Blaze. 3 contre 1, Desborough. 5 contre 1, sur le champ.
Les numéros sont déjà affichés, m'écriai-je. Les 6 chevaux partent.
Tous les 6, mais mon cheval part aussi, dit le colonel au paroxysme de l'agitation. Mais cependant, je ne le vois pas, mes couleurs ne sont pas là.
Ah, il n'y a que 5 chevaux qui soient sortis du passage. Ah, ce doit être lui qui arrive maintenant.
Et comme je pensais ces mots, un splendide cheval bai entrait sur la piste et prenait son galop d'essai. Il portait les couleurs bien connues du colonel Ross.
Mais ce n'est pas mon cheval, s'écria avec désespoir le propriétaire. Celui-ci n'a pas un seul poil blanc sur le corps. Qu'est-ce que vous avez fait là, monsieur Holmes ?
Allons, allons, voyons seulement comment il se comportera, répondit mon ami avec le plus grand sang-froid. Pendant quelques minutes, il regarda à travers ma lorgnette.
« Parfait, départ excellent !» cria-t-il tout à coup. Puis un peu après,
« Les voilà, ils arrivent tournant !»
De la voiture, nous étions merveilleusement placés pour surveiller la ligne droite. Les 6 chevaux galopaient alors sous un mouchoir, mais à la distance, le Kazakh blanche et jaune de l'écurie Capleton se montrait en tête. Cependant, avant d'arriver à notre hauteur, Desborough, qui avait déjà fait son effort, était battu, et le cheval du colonel, traversant le peloton comme une balle, passait le poteau à 6 bonnes longueurs devant lui, Iris, au duc de Balmoral, mauvais 3e.
Quoi qu'il en soit, « j'ai gagné la course !» articula péniblement le colonel Ross en passant la main sur son front. « Mais j'avoue que je n'y comprends absolument rien. Voyons, monsieur Holmes, ne trouvez-vous pas que le mystère ait duré assez longtemps ?»«
Certainement, colonel, et je suis prêt à tout vous expliquer. Mais traversons d'abord la piste et allons examiner le cheval. »«
Le voici, » continua-t-il, tandis que nous nous frayons un chemin pour pénétrer dans l'enceinte réservée aux propriétaires et à leurs amis. Vous n'avez qu'à laver la tête, et son membre antérieur avait de l'esprit de vin, et vous trouverez votre vieux Silver Blaze, tel que vous l'avez toujours connu.
Oh, dire que je n'avais pas songé à cela, c'est renversant.
Je l'ai retrouvé entre les mains d'un maquignon et j'ai pris la liberté de le laisser courir dans l'état où il était.
Mon cher monsieur, mais tout ce que vous avez fait est merveilleux. L'animal paraît être dans une condition splendide. Il n'a jamais mieux couru de sa vie. Oh, je vous dois 1 million d'excuses pour avoir douté de votre talent. Quel service vous m'avez rendu en retrouvant mon cheval! Maintenant, vous m'en rendriez bien plus grand encore si vous pouviez mettre la main sur l'assassin de John Straker.
C'est déjà fait, prononça Holmes avec calme.
Le colonel et moi nous le regardâmes tous les deux avec la même stupéfaction.
Vous le tenez, où est-il alors?
Il est ici.
Ici, où?
Près de moi, en ce moment.
Le colonel devint tout rouge de colère. Ah, je reconnais parfaitement que je vous dois beaucoup, monsieur Holmes, dit-il, mais faut-il considérer ce que vous venez de dire comme une détestable plaisanterie ou comme une insulte personnelle?
Sherlock Holmes éclata de rire.
Ah, non, je vous prie de croire, colonel, que je n'ai pas songé un instant à vous considérer comme ayant participé au crime. Le véritable assassin est là, juste derrière vous.
Il recula d'un pas et passa la main sur l'encolure luisante du pur sang.
« Quoi, le cheval ?» nous écriâmes tous ensemble, le colonel et moi. « Oui, le cheval. » Seulement, je dois alléguer comme circonstance atténuante en faveur de ce cheval qu'il se trouvait dans le cas de légitime défense et que John Straker était un misérable absolument indigne de votre confiance. Mais j'entends la cloche et comme j'ai un peu d'argent engagé dans la course qui vient, permettez-moi d'attendre un moment plus propice pour vous donner des explications détaillées.
Nous eûmes le soir, pour revenir à Londres, un compartiment réservé, et grâce à Sherlock Holmes, le voyage dut paraître aussi court au colonel Ross qu'il le parut à moi-même. Nous étions suspendus à ses lèvres pendant qu'il nous racontait les événements dont le Dartmoor avait été le théâtre ce lundi soir et qu'il nous expliquait comment il avait réussi à les éclaircir.
Je dois avouer, nous dit-il, que toutes les hypothèses que j'avais pu formuler d'après les journaux étaient absolument erronées. Et cependant, j'aurais pu trouver là des indications très précises si les points importants n'avaient pas été noyés dans une foule de détails superflus. Je partis donc pour le Devonshire avec la conviction que Fitzroy Simpson était le vrai coupable, tout en me rendant bien compte que les charges qui pesaient sur lui n'étaient en aucune façon décisives. C'est en voiture, au moment d'arriver à la maison de l'entraîneur, que cette particularité du curry, avec lequel on avait assaisonné le mouton, me frappa tout d'un coup comme étant d'une importance capitale. Vous vous rappelez peut-être que j'étais absorbé au point d'être resté dans la voiture après que vous en étiez tous descendus. C'est ce que je me demandais à moi-même, comment j'avais bien pu négliger une indication aussi importante.
J'avoue, dit le colonel, que même à présent je ne vois pas bien en quoi cela pouvait vous servir.
Ça a été le premier anneau qui m'a permis de reconstituer ensuite toute la chaîne des faits. L'opium en poudre a une saveur bien prononcée. L'arôme n'en est pas désagréable, mais est néanmoins parfaitement perceptible. Si on en mettait dans un ragoût ordinaire, celui qui en mangerait s'en apercevrait et sans aucun doute laisserait là le plat. Le curry se trouve justement être le condiment qui permet de déguiser le goût de l'opium. Or, il était impossible d'admettre qu'un étranger comme Fitzroy Simpson ait trouvé le moyen de faire servir du curry à la table de l'entraîneur précisément ce soir-là. Comment d'un autre côté supposer qu'il y ait eu simplement coïncidence et que Simpson ait eu la bonne fortune d'arriver avec son opium le jour même où ce narcotique devait passer inaperçu grâce à la nature du plat servi. C'était inadmissible. Simpson se trouvait par là même hors de cause et mon attention devait se reporter tout entière sur Strecker et sur sa femme, les deux seules personnes qui étaient à même de faire entrer dans le menu de leur dîner ce curry de mouton. L'opium avait été versé après que le repas du garçon d'écurie avait été remis à part, puisque tous ceux qui ont mangé du même plat n'en ont éprouvé aucun effet fâcheux. Qui donc avait pu faire le coup, sans que la servante s'en soit aperçue? Avant d'élucider cette question, j'avais été mis en éveil par le silence du chien. Car une déduction qui se confirme en amène forcément une autre. L'incident Simpson m'avait appris qu'il y avait un chien de garde dans l'écurie et cependant, plus tard, quoique quelqu'un y fût tenté et eût emmené le cheval, ce chien n'avait pas aboyé assez fort pour éveiller les deux lades qui couchaient dans le grenier. Évidemment, le visiteur nocturne était quelqu'un que l'animal connaissait très bien. Ma conviction était donc déjà faite aux trois quarts. C'était John Strecker qui était allé à l'écurie au milieu de la nuit et qui en avait fait sortir Silver Blaze. Quel avait pu être son mobile? Un mobile malhonnête, sans aucun doute, puisqu'il avait cru nécessaire d'endormir son garçon d'écurie. Et cependant, je me perdais en conjectures sur l'acte même qu'il avait voulu commettre. Nous savons que, bien souvent, des entraîneurs ont empoché des sommes considérables en pariant par l'intermédiaire d'hommes de paille contre leurs propres chevaux et en employant ensuite une ruse quelconque pour empêcher ceux-ci de gagner. Tantôt, c'était un jockey qui tirait le cheval, tantôt on se servait de procédés plus sûrs et plus subtils. Alors lequel avait été choisi dans le cas présent? Je me pris à espérer que le contenu des poches de l'entraîneur me mettrait sur la voie, et c'est ce qui est arrivé. Vous n'avez certainement pas oublié le singulier couteau que le cadavre tenait encore dans la main quand on l'a retrouvé, un couteau qu'aucun homme dans son bon sens n'aurait eu l'idée de prendre comme arme. Ainsi que nous l'a dit le docteur Watson, cette lame est d'une espèce toute particulière et on l'emploie pour une des opérations chirurgicales les plus délicates. C'était en effet une bien délicate opération qu'elle devait servir cette nuit-là. Vous savez évidemment, colonel, avec votre grande expérience de tout ce qui concerne les chevaux, qu'il est possible d'atteindre sous la peau du jarret le tendon qui s'y trouve et d'y faire une légère incision sans laisser la moindre trace de la chose. Après cela, le cheval manifestera une légère boiterie, mais on la mettra sur le compte d'un effort qu'il se sera donné à l'exercice ou bien d'une atteinte de rhumatisme, sans jamais songer un instant qu'elle puisse être le résultat d'un acte criminel. « Quel infect canaille !» s'exclama le colonel. Voilà ce que comptait faire John Strecker quand il a emmené le cheval dans la lande. Il était en effet absolument nécessaire de pratiquer l'opération hors de l'écurie, car un animal aussi plein de sang que Silver Blaze eût certainement fait un tapage effroyable. En sentant pénétrer la pointe du couteau, il aurait ainsi réveillé le dormeur le plus endurci. « Aveugle que j'ai été !» s'écria le colonel. « C'est évidemment pour cela qu'il avait emporté un bout de bougie et qu'il s'est servi de l'allumette que vous avez retrouvée. » « Sans aucun doute. Mais, outre les procédés employés pour commettre ce crime, j'ai été assez heureux en examinant les papiers contenus dans les poches pour découvrir les motifs mêmes qui l'ont déterminé. Vous savez comme tout le monde, colonel, qu'on n'a pas l'habitude de porter sur soi les factures d'un autre. Nous avons en général bien assez de mal à payer celles qui nous concernent. J'ai donc pensé immédiatement que Strecker avait une vie organisée en partie double et qu'il se trouvait à la tête d'un second ménage. La nature de cette facture prouvait qu'il y avait une femme sous roche, et même une femme très portée à la dépense. Quelque généreux que vous puissiez être vis-à-vis des gens qui sont à votre service, il est peu probable qu'ils gagnent assez d'argent pour être en mesure de payer à leur femme des robes de 1 000 francs. Sans en avoir l'air, j'ai interrogé Mrs. Straker sur la robe en question, et une fois certain qu'elle ne l'avait jamais eue en sa possession, je pris note de l'adresse de la couturière, convaincu qu'en lui montrant la photographie de Straker, je serais aussitôt renseigné sur la véritable personnalité du mystérieux Derbyshire. Dès lors, tout était expliqué. Straker avait conduit le cheval dans un creux où la lumière de sa bougie ne pouvait être aperçue des environs. Il lui arriva par hasard de trouver la cravate que Simpson avait laissée tomber dans sa fuite, et il la ramassa, content, peut-être s'en servir, pour entraver la jambe de Silver Blaze. Arrivé à l'endroit qu'il avait choisi, il avait enflammé son allumette tout en passant derrière le cheval. Et celui-ci, effrayé de cette clarté subite, sentant de plus, grâce à cet instinct étrange que possèdent les animaux, qu'on nourrissait contre lui quelque mauvais dessein, bondit et d'une ruade fracassa la tête de Straker. En tombant, l'entraîneur se fit avec le couteau qu'il tenait à la main une estafilade à la cuisse. Car, en dépit de la pluie, il s'était déjà débarrassé de son manteau afin d'être plus libre pour mener à bien son petit travail. Voilà, tout cela ne vous paraît-il pas clair ?
Ah, c'est merveilleux ! S'écria le colonel, merveilleux ! On jugerait que vous y étiez !
Mon coup final fut, je l'avoue, un coup de maître. Il me vint à l'idée qu'un homme aussi malin que Straker n'avait pas dû risquer cette délicate opération au tendon sans s'être fait la main auparavant. Mais sur quoi ? J'aperçus tout à coup les moutons, et c'est alors que je posai au lad une question à laquelle il me répondit de façon à confirmer toutes mes suppositions. J'avoue que j'en restais moi-même fort ébahi.
Vous avez tout admirablement éclairci, monsieur Holmes.
À mon retour à Londres, je passai chez la couturière, qui reconnut immédiatement la photographie que je lui présentais comme étant celle d'un de ses meilleurs clients nommé Derbyshire, dont la femme très élégante témoignait des goûts les plus dispendieux. C'est certainement cette femme qui a plongé Straker jusqu'au cou dans les dettes et l'a ainsi amené à entreprendre sa criminelle tentative.
Vous nous avez tout bien expliqué, moins une chose, remarqua le colonel. Qu'était devenu le cheval ?
Ah, le cheval ! Eh bien, il s'était échappé, et un de vos voisins en a pris soin. Prononçons, si vous le voulez bien, une amnistie pleine et entière en sa faveur. Cela vaudra mieux, je crois. Mais nous voici, me semble, à Clapham Junction, et dans moins de 10 minutes, nous serons arrivés à Victoria. Si vous voulez nous faire le plaisir de venir fumer un cigare chez nous, colonel, je me mets à votre entière disposition pour vous donner tous les détails qui pourraient encore vous intéresser.